voix nue. Cette semaine, Pauline Chanu rencontre Pierre Rabhi. Ce soir, le paysan prophète.
Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Nous nous retrouvons ce soir pour ce cinquième et dernier épisode. Vous êtes paysan, philosophe et écrivain. Vous défendez depuis 60 ans l'agroécologie, car ce modèle est selon vous indispensable, mais aussi le seul possible pour freiner la catastrophe écologique. Hier, vous nous avez raconté comment vous portez une parole écologique, sans jamais avoir emprunté le chemin de la politique traditionnelle et partisane. Pierre Rabhi, vous êtes un personnage atypique. Vous avez vécu assez longtemps à la marge, en retrait du monde moderne, mais vous avez progressivement changé de statut, passant de celui de paysan à celui d'homme public. Est-ce que vous avez été surpris par ce succès d'audience ?
Non, parce qu'il est, venu graduellement. Disons qu'au départ, il y a 50 ans, j'étais certainement pas très très écouté. Je ne le cherchais pas d'ailleurs. On était simplement dans notre propre insurrection, installation en Ardèche, etc. Et puis graduellement, j'ai aussi cette faculté, si on peut dire, d'écrire et de parler. Et si je n'avais pas eu ces outils de l'écriture et de la parole, je pense que je n'aurais pas émergé comme ça s'est fait, parce que j'ai communiqué avec mes semblables, j'ai essayé d'amener un témoignage de vie, on me l'a demandé ce témoignage de vie, et c'est ça qui a été l'accroche petit à petit, qui m'a permis, à travers un chemin concret, retourner à la terre, etc., de propager en quelque sorte ce que je pouvais propager, qui me paraissait juste.
Aujourd'hui, vous recevez 600 invitations par an à donner des conférences dans toute la France. Vous séduisez des mécènes. On parle souvent de vous comme d'un prophète.
Prophète, disons, il faut sortir la caricature du... j'ai pas de barbe, j'ai une toute petite barbe. Les succinctes barbes, comme on dit. Donc j'ai pas... Je veux dire, quand on parle de prophète, on a l'impression d'un homme... comme ça, échevelé, avec une grande barbe, qui va à travers les places publiques délivrer son message avec un doigt, un index élevé pour dire « Attention, si vous ne faites pas ci, si se passera ça, etc. » Donc on n'est pas dans les caricatures. C'est simplement que je suis persuadé, de par mon intuition, que le modèle de société n'est pas bon. À l'évidence, il est destructeur. Que les humains, même qui sont soi-disant dans le progrès, sont de moins en moins heureux, qu'on ait une espèce de morosité, qui est une morosité quand même maintenant extrêmement répandue.
Vous parlez de votre intuition, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pressenti quelque chose, d'avoir eu une intuition un peu particulière ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, et cherché des réponses, de mille façons. Donc à une époque, je dévorais des tas de livres qui m'intéressaient évidemment. J'allais vers les gens qui avaient quelque chose à dire de très très important. J'étais pas tellement dans la littérature romanesque, dans la littérature. J'étais plus dans la quête d'une certaine vérité, d'un certain sens à la vie, et ça m'a amené vers les auteurs qui étaient eux-mêmes dans ce type de préoccupation et qui ont pu finalement aussi m'aider à structurer ma propre pensée et ma propre insurrection.
Aujourd'hui, vous êtes un homme très médiatique. Pourquoi avez-vous accepté de jouer le jeu de l'homme médiatique ?
J'ai pas accepté de jouer le jeu, c'est simplement que j'ai voulu exprimer les choses. Mais avec quand même une particularité, c'est-à-dire que je n'ai pas fait que parler. On a réalisé des structures, on a réalisé un centre qu'on appelle Terre et Humanisme, on a réalisé les Amanins, le centre des Amanins, ma fille a créé le Hameau des Buis, nous avons mis en route les Colibris, nous avons mis en route les Oasis en tout lieu, il y a un rapport au pays du Sud, à la semence, à tout, on n'a pas fait que... pour faire des proclamations, parce que les proclamations suffiront certainement pas à changer la société. On peut toujours accumuler les thèses et les antithèses, c'est pas à coup de thèses et antithèses que la société changera. Maintenant, soit on fait de la philosophie pure, à ce moment-là, ça ne concerne que les idées, soit on est ancré dans la réalité tangible du monde d'aujourd'hui, à ce moment-là, on ne peut pas se contenter simplement de faire le diagnostic. C'est comme si un médecin vient vous voir et vous dit « vous avez ci, vous avez ça, au revoir ». Ben, il faut bien qu'il y ait une ordonnance quelque part. Eh bien, aujourd'hui, on a l'impression que les constats, les bibliothèques craquent sous les thèses et les antithèses sur les constats, etc. Mais les propositions sont maigres par rapport à une réalité, de toute façon, qui, elle, évolue négativement. Et si on n'arrête pas cette évolution négative, ça va devenir irréversible. Et cette irréversibilité va engager les êtres humains dans des tragédies. Surtout que nous sommes dans une société organisée de telle façon qu'elle est totalement dépendante. Vous imaginez s'il n'y a plus de carburant, plus d'électricité, plus de communication, ce qui va se passer.
Vous parlez de dépendance. Justement, vous dites aujourd'hui que vous-même, vous êtes dépendant de cette modernité. Vous avez beaucoup parlé de la modernité comme d'une imposture, mais vous le disiez, vous utilisez la voiture, vous prenez l'avion. Comment vous vivez avec ces contradictions ?
Je suis évidemment dépendant de ma voiture, etc. Mais j'ai mon jardin, si pour cultiver, si pour échapper à la famine. J'ai tout en étant en bénéficiant des éléments de la modernité, je suis encore ancré et je suis honoré quand on m'appelle paysan parce que je suis relié aussi aux forces de la vie. Je n'ai pas déserté les forces de la vie. Je suis bien sûr dépendant de l'électricité, même s'il a été longtemps, dépendant de ma voiture si je veux me déplacer, mais à la fois s'il y a complications sociales, j'ai mon jardin, j'ai mes arbres que j'ai plantés, qui me donneront des fruits, et je suis pas en train de me vanter de quoi que ce soit, je suis en train simplement de témoigner que le temps est venu pour que la collectivité humaine sorte de ce hors-sol où elle est prise en otage, parce que c'est carrément une prise en otage, pour renouer avec les forces de la vie.
En effet, vous avez une solution de repli, c'est votre ferme, mais vous dites vous-même que vous posez la cohérence de votre choix initial, que vous demandez souvent « est-ce que je suis encore cohérent ?» et vous reconnaissez vous-même être devenu un capitaliste. Vous le dites dans le livre, je crois, « Pierre Abyssemer d'espoir », vous dites « je dois bien avouer qu'aujourd'hui je suis un capitaliste et je dois vivre avec cette contradiction, il faut que je sois cohérent ». Je me demande, vous, comment vous viviez avec ces contradictions, et vous qui avez longtemps vécu dans une véritable sobriété, est-ce que vous regrettez le temps où vous étiez uniquement dépendant de votre ferme ?
Non, je pense qu'il est impossible de vivre dans la société sans relativiser les choses et sans concession. Il y a des gens qui veulent aucune concession, ils se regroupent et ils rompent complètement avec la société pour n'avoir rien à voir avec la société. Voilà. Et donc ça peut tomber dans le sectarisme qui peut être dangereux, quoi.
Vous prenez le retrait du monde, la méditation, la déconnexion comme un moyen d'être plus heureux. Et vous dites vous-même que vous êtes de nature hyperactive, que vous avez un emploi du temps surchargé, que vous rencontrez énormément de monde. Comment vous arrivez encore à mettre au quotidien en application ces préceptes de vie ?
Je ne le ferais certainement pas si c'était pas relié à mon idéal et à ce que je crois bon pour moi et pour l'humanité. Je ferais certainement pas cela. Je ferais certainement pas cela pour accumuler de l'argent. C'est sûr que ça n'a aucun intérêt pour moi. J'en ai besoin comme tout le monde. Et j'en réclame quelquefois, non pas pour moi, mais pour les structures que j'ai mis en place pour essayer d'être efficace par rapport à ce qu'on essaye de proposer. C'est surtout dans ce domaine-là que j'ai besoin d'argent. J'ai pas besoin d'un argent qui me permettrait de... D'ailleurs, je pourrais pas mettre 3 chemises à la fois, 4 pantalons. Je veux dire, il y a manger 3 repas à la fois. Donc, on met les choses à la juste mesure de nos besoins. Et c'est légitime, à la juste mesure de mes besoins. Il faut bien que je mange, il faut bien que j'ai ce qu'il faut. Mais j'ai rien au-delà de cela.
Pierre Abbé, en 2018, le journaliste Jean-Baptiste Mallet écrit dans Le Monde diplomatique un article à charge contre vous, qui s'appelle « Le système Pierre Rabhi ». Il vous reproche plusieurs choses. Il vous reproche vos fréquentations avec des capitaines d'industrie. Il remet en question votre statut d'expert. Et il vous reproche de ne pas redistribuer l'argent que vous gagnez, en tout cas pas la plupart de l'argent que vous gagnez.
Il est totalement injuste. Alors, du moment que c'est injuste, alors quel est, je peux pas psychanalyser ce monsieur, mais je pense que il s'est dit, si je me fais rhabille, compte tenu de la réputation qu'il a, alors là, je joue le grand chelem. Enfin, je vais pouvoir me propulser grâce à Rabbi. Donc, je vais essayer d'avoir sa peau, de mettre en contradiction, etc. Et voilà. Bon, ben, je pense pas que ça soit par la logique que je peux comprendre ça. C'est par la psychanalyse. Qu'est-ce qu'il a en lui de particulier pour s'en prendre à Pierre Rabbi? Et il me présente comme étant riche. Alors c'est pas vrai, je suis pas du tout riche. Je gagne bien ma vie, c'est tout. Il se trouve, j'ai la chance. Ma retraite, c'est 600 euros en tant que retraite de paysan. J'ai la chance que mes livres se vendent et ça m'amène de la prospérité familiale. Avec cet argent, j'essaie d'aider aussi. Je sais pas quelque chose. En tant que moi, mes besoins personnels, ils sont très limités.
Comment vous essayez d'aider ?
D'abord, j'aide par des actions. Il faut rappeler que j'ai propagé l'agriculture écologique dans tout le Sahel, à partir du centre de formation à l'agroécologie, que j'ai participé à libérer les paysans des engrais, des pesticides, qui les ruinaient et qui ruinaient leur milieu. Donc, on est dans quelque chose de réel. Les paysans, quand on leur a appris à faire du compost, à travailler le sol autrement, etc., mais ils étaient super heureux. Parce que ils étaient rentrés dans un système qui leur disait pas de salut sans engrais chimiques, sans pesticides, sans semences sélectionnées. Et tout ça, c'est le monde du profit. Et j'accuse ce monde de profit d'avoir été une contribution énorme à la famine de ces gens-là. Parce que la plupart du temps, ils se ruinaient avec ces produits et on les a engagés à produire pour exporter, pour le marché international, etc., plutôt que pour se nourrir directement. Donc j'ai déjà évoqué ces questions-là, lire l'offrande au crépuscule où j'explique tout ça. Et par ailleurs, moi, l'argent, je considère que c'est une énergie. C'est une énergie, tout dépend où placer cette énergie. Et moi, je préfère la placer là où elle est positive. Bien sûr, j'aide mes enfants, mais j'aide aussi, j'ai pas besoin de dire, j'aide des amis. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans une difficulté et qu'il est en même temps dans une position généreuse à l'égard de la vie, mais qu'il est en même temps en difficulté, ben, je suis heureux de l'aider. Voilà, ça se maintient à ça. Je suis pas du tout ce qu'on appelle un capitaliste. Par contre, oui, je suis capitaliste de quoi ? Nous avons une ferme merveilleuse, un paysage extraordinaire, une terre rocailleuse mais très très chaleureuse. Quand je suis chez moi et que je regarde le ciel par une nuit d'été bien claire, je suis ravi de voir les étoiles, de voir la lune, de voir toutes ces choses-là qui sont des offrandes que la vie nous font, mais gratuitement, il n'y a rien à payer. Regarder un pays, le ciel, s'émerveiller de la beauté, il n'y a rien à payer. Et ben, c'est de ça que la civilisation a privé tout le monde. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire en termes de richesse.
Vous parliez de vos amis, vous êtes très entouré. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui vient à la ferme de Montchamp. Vous recevez aussi chez vous des décideurs, en tout cas vous avez reçu le directeur général du groupe Danone, Emmanuel Faber par exemple, ou je crois que vous avez aussi rencontré Jean-Pierre Petit qui est le plus haut dirigeant français de McDonald's. À quoi ça sert d'aller voir ces gens? Quelle est votre intention quand vous recevez ces gens?
Quand je les reçois,
oui.
Je reçois d'abord un être humain. Je vois l'être humain et peu importe après s'il est ceci, il est cela.
Vous essayez de leur mettre dans la bonne voie?
Ah, surtout pas. Je ne prétends pas remettre dans la bonne voie qui que ce soit. Par contre, je témoigne et je ne triche pas puisque c'est réel. Quand ils viennent chez moi, il y a une vraie ferme, il y a vrai. C'est pas du blabla. Après, je dis pas faites comme moi. Je ne suis absolument pas du tout dans le registre de la conversion des autres. Par contre, je témoigne. Je témoigne, vous prenez, vous laissez, vous critiquez. Monsieur Mallet a critiqué, bon, je trouve qu'il a critiqué un peu d'une façon injuste et stupide. Bon, mais il a critiqué. Puis voilà, je ne suis pas là à prêcher quoi que ce soit. c'est souvent amical. C'est pas simplement leur fonction. C'est aussi amical. Est-ce que ce qu'ils viennent chercher, je peux leur donner? J'en sais rien. Moi, je ne sais pas si je peux leur donner ce qu'ils cherchent.
Mais vous n'avez pas peur qu'en parlant à ces gens, ensuite ils vous utilisent comme un argument, comme une caution morale, une caution verte, leur caution?
Mais je le suis déjà. Je suis déjà. Je sais très bien que des gens me demandent des préfaces, des machins, des trucs. Pour... Donc cette caution, elle est là. Alors c'est soit me barricader et dire voilà, soit on est ouvert. Quand on me demande une préface, par exemple, pour un bouquin, je sais très bien que le nom de Pierre Rabhi est porteur. Bon, je suis pas dupe de ça. Mais tout dépend ce que fait réellement la personne.
Mais vous diriez pas oui à n'importe qui?
Ah ben non. Non.
Vous n'écririez pas la préface du patron de McDonald's?
Non, je vois pas ce que je dirais... Je dirais du patron de McDonald's, parce que je serais pas en mesure d'approuver. Parce que derrière tout ça, il y a des opportunités. Parce que la bio, comme je suis depuis très longtemps dans la bio, elle était constamment critiquée. Constamment, nous sommes des hurluberlus, etc. Et maintenant que la bio commence à intéresser de plus en plus de monde, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Un avantage commercial.
Dans le livre « Pierre Rabhi se meurt d'espoir » qui est paru chez Actes Sud en 2013, vous écrivez que vous considérez comme dangereuse pour l'avenir de l'humanité la validation de la famille homosexuelle, alors que par définition, cette relation est inféconde. Est-ce que ça veut dire que selon vous, les homosexuels ne devraient pas avoir le droit de fonder une famille?
Ils peuvent fonder une famille. Moi, j'ai simplement insisté, moi-même étant orphelin de mère, à partir de mes propres tripes, de ce vide que j'ai eu de n'avoir pas une maman, de l'avoir pas connue, eh bien, j'ai souffert énormément. Voilà. Alors, je me permets de dire, là, d'accord, les adultes consentants, ils décident absolument de ce qu'ils veulent. Je n'ai vraiment aucune restriction ni loi morale. Simplement, je pense que quand on intègre un enfant dans ce cadre-là, je me demande simplement, peut-être que tout peut se passer merveilleusement, sans aucun... Ça peut se passer merveilleusement. Mais ça peut se passer aussi, oui, j'ai deux mamans, j'ai deux papas, mais... et toi, tu as un papa et une maman, etc. Bon, mais pour moi, je ne fais pas de censure particulière, simplement, je... Peut-être que c'est l'orphelin en moi qui résonne, qui... moi, j'ai eu un père, mais j'ai pas eu de mère. Et donc, peut-être que c'est... Dans ma subjectivité, ma sensibilité profonde, c'est peut-être ça qui me fait, en quelque sorte, faire ce petit constat et cette petite restriction.
Pierre Rabhi, vous parlez de retour à la terre, de terre nourricière. Vous excluez toute intervention humaine dans la manipulation du vivant.
Oui.
Ces valeurs aujourd'hui sont reprises par une partie de l'extrême droite. Comment on distingue la dimension conservatrice de l'écologie, c'est-à-dire conserver la vie sur Terre, de la pensée conservatrice d'extrême droite? Est-ce que vous avez peur parfois d'être assimilé à certaines de ces postures?
Moi, je suis un concret, je suis un agroécologiste, je sais travailler la terre écologiquement. J'ai créé des structures qui appliquent l'agroécologie. Nous ne sommes pas réellement au sud, au nord, encore. On vient de fonder au Maroc, proche de Marrakech, un centre de formation à l'agroécologie. J'ai fondé avec mes amis de Pointe-Mulhouse le centre de Gorom Gorom. En Mauritanie, nous avons aussi un programme extrêmement concret de création, concrète de centres qui diffusent des connaissances utiles et concrètes. Donc moi, je vois pas ce que je peux faire de plus.
Vous parlez beaucoup des femmes comme des victimes de l'histoire qui ont été opprimées pendant des siècles par la violence masculine. Vous dites que les femmes ont une place à prendre, un rôle à jouer.
Elles sont en train de le faire d'ailleurs. Moi, c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est que on pourrait dire le masculin et le féminin, parce que dès qu'on dit femme et homme, on rentre déjà dans l'ambiguïté. Par contre, il y a l'énergie féminine et il y a l'énergie masculine. Ces deux énergies doivent être en symbiose pour avoir une énergie totale. Voilà, il faut le masculin et le féminin. Après, quand on dit femme et homme, on rentre déjà dans le discours politique. Déjà l'énergie. Il est nécessaire qu'il y ait l'énergie féminine, l'énergie masculine. Il est certain qu'il y a même une asymétrie, on peut dire, quand un homme et une femme procréent. Si on pouvait demander au bébé, voilà, il faut que tu te passes de l'un ou de l'autre. Je caricature un petit peu. Il faut que tu te passes de l'un ou de l'autre. Il est certain que, en admettant, c'est tellement absurde ce que je suis en train de dire, que l'enfant soit conscient du choix, il faut forcément choisir à la mère. Parce que la mère, c'est elle qui va l'allaiter, c'est elle qui va lui transmettre la vie physique. L'homme a joué son rôle de fécondation, mais après, une fois que l'enfant est né, il est indissociable de sa mère. Il peut être dissociable de son père, mais pas de sa mère. Parce que s'il est dissocié de sa mère, il meurt. Donc, il faut voir cette réalité objective. C'est pour ça que même dans le monde animal, un seul mâle féconde je ne sais combien de femelles. Moi, je ne fais pas de comparaison stupide, mais on a été éleveur de chèvres. Ben, on avait 35 chèvres et un bouc. Ouais. Dans la nature, c'est comme ça. Un mâle féconde plusieurs femelles. Une fois que les enfants sont nés, le mâle peut partir, ça n'a aucun inconvénient. La femelle, par contre, non. Parce que c'est elle qui va transmettre directement la vie. Alors, c'est peut-être des comparaisons un peu spécieuses, mais c'est la réalité physiologique, biologique, etc. C'est la réalité naturelle, on ne peut pas la contourner. Alors après, l'être humain met beaucoup d'éléments affectifs, des éléments dans cette réalité biologique, bien entendu. Et après, bon, ben, il y a la filiation, non pas seulement biologique, mais il y a la filiation aussi liée à la culture, liée à la tradition, liée à toutes sortes de connaissances, etc., qui font que l'être humain, il ne peut pas être simplement au niveau du mammifère, simple.
Vous êtes bien placé pour le savoir.
Oui, bien sûr.
Puisque vous avez vécu avec deux familles.
Oui, ben, c'est-à-dire que mon destin, ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien, moi, ce qui s'est produit. En tout cas, moi, j'ai été dans élevé, effectivement, d'abord né dans une culture musulmane, et puis ensuite transféré par la voie du destin dans une famille chrétienne. Et du coup, j'étais bien placé pour connaître les contradictions, les dogmatiques, les croyances, la culture. De toute façon, les gens du Nord, c'est-à-dire les Français qui sont venus dans notre pays, sont venus pour nous civiliser, comme ils ont essayé de civiliser un tas de monde, quoi. Et ça a été le nivellement qui s'est produit d'ailleurs en Europe. Moi, je me répète, je déplore la destruction de la diversité culturelle qu'il y avait en Europe. C'est extraordinaire. Et la façon dont les gens se nourrissaient, s'habillaient, leur langue particulière, etc. Tout ça, on l'a gommé par une dictature culturelle qui se voulait la seule. La civilisation a commencé par l'Europe et ensuite elle s'est répandue dans le monde entier.
Vous n'êtes jamais retourné à Kenatsa, vous n'êtes jamais retourné en Algérie, pourquoi ?
La vie a fait que je me suis installé comme paysan ardéchois, que j'ai tourné la page par rapport à ce passé, parce qu'il était trop douloureux pour moi. Retourner dans le lieu de ma naissance et voir des paraboles de machin, alors que c'était une cité extrêmement paisible, très très paisible, vraiment, quand le jour en était dans une espèce de légèreté, de simplicité de la vie, et aller voir là-bas des bagnoles, des machins, j'ai pas envie. J'ai envie de garder ce souvenir-là que d'aller me désillusionner et voir que tout ça a été aboli par une nouvelle logique qui s'est imposée et que je n'approuve pas forcément à 100%. Moi, j'aurais aimé retrouver le songe de mon village, cette paix royale du silence la nuit, la grand-mère qui racontait des histoires, le vent qui amenait de la musique lointaine, mon propre père musicien dans cette ambiance, etc. Mais comme elle est révolue, je n'ai pas envie de retourner voir la mort de tout ça.
Quel lien vous avez conservé avec votre famille ?
Oui, avec mes frères, on se téléphone assez souvent.
Vous les avez déjà revus ?
Je les ai revus, oui. Certains viennent me voir en Ardèche. J'ai gardé le lien de parenté. Ils sont pas peu fiers de voir que mon évolution de quelqu'un de connu, etc. Bon, ils sont fiers de ça. Voilà. Et je les aime et nous nous aimons et nous avons les mêmes racines, le même père. On est encore dans cette fraternité. Si je peux les aider, je les aide. Si je peux, etc. Voilà. Alors on a essayé de sauvegarder dans cette tourmente énorme et ce brassage énorme de choses et d'événements contradictoires, on a quand même de sauvegarder le meilleur, qui est le lien fraternel entre nous et l'amour que nous avons les uns pour les autres.
Vous n'êtes jamais retourné en Algérie et pourtant vous dites que si vous aviez le choix aujourd'hui de tout recommencer...
Si, je suis retourné en Algérie, mais pas dans mon pays. Je suis retourné, mais pour des raisons, justement, de ma profession d'agroécologiste. J'ai donné des conférences, etc., etc. Mais il y a longtemps.
Vous dites que si vous aviez le choix aujourd'hui de tout recommencer, vous demanderiez à renaître à Kanatsa et à ne plus jamais quitter votre village.
Oui, après, je me suis trouvé dans une aventure extrêmement riche, mais aussi très contraignante. Et je le suis encore. Mais néanmoins, je ne regrette pas d'avoir pris ce chemin difficile, sinueux, compliqué, avec tous les aléas qui l'ont jalonné et la posture de celui qui avance envers et contre tout, et qui ne peut pas reculer de toute façon. Il est obligé d'avancer envers et contre tout. Mon destin a été comme ça. Après, on peut faire toutes les suppositions, s'il n'y a pas eu, ça ne sert à rien. Je veux dire, pour moi, il y a une réalité, point final, quoi.
Votre destin était celui-ci. Merci beaucoup, Pierre Rabhi. Merci d'avoir pris le temps cette semaine de revenir sur votre vie avec nous.
Merci à vous.
De cette rencontre de Pauline Chanu avec Pierre Rabhi. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Éric Audra, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.